Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 mars et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle semaine d'émission autour de l'actualité en Mayenne. Et ainsi qu'Andy, j'imagine qu'évidemment tu es ravie de revenir parmi nous. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Ça va très bien pour cette nouvelle semaine puisqu'on va aussi... décrypter l'actualité en Mayenne comme d'habitude avec plusieurs sujets. On va parler aujourd'hui de la marche pour le climat qui a eu lieu à Laval vendredi dernier, qui a réuni plus d'une centaine de personnes avec donc marche des jeunes, donc avec beaucoup de lycéens, d'étudiants qui étaient présents. Vous entendrez justement le témoignage de l'un d'entre eux et aussi un autre témoignage, celui de Martine Michel qui a été dans son enfance victime de violences sexuelles. Elle a écrit un livre et elle va témoigner aujourd'hui. C'est notre invitée en studio. Et puis on va aussi retrouver, comme tous les 15 jours, le lundi, dans cette émission, la chronique de la Ligue des droits de l'homme qui va nous parler aujourd'hui d'une journée spéciale avec le Colédis. On parle de ça en fin d'émission. D'abord, on va faire un point sur l'actualité avec toi, Andy. Et c'est le coup d'envoi ce lundi de la campagne officielle des présidentielles.
À moins de deux semaines du premier tour des élections, de nouvelles règles entrent en jeu. Après le principe d'équité du temps de parole des candidats, c'est le principe d'égalité qui s'applique. Les clips de campagne des candidats vont être diffusés par les chaînes publiques et leurs programmes vont arriver dans les boîtes aux lettres.
Et la ville de Laval lance d'ailleurs un appel à bénévoles pour devenir assesseurs.
Et tenir les bureaux de vote les deux jours de scrutin, les 10 et 24 avril. Pour le devenir, il suffit de contacter la mairie, soit par téléphone, soit par mail. Seule condition, il faut être électeur à Laval et joindre dans sa demande une photocopie de sa carte d'identité et de sa carte d'électeur.
Alors que l'épidémie est à nouveau en hausse en Mayenne, les dépistages se poursuivent.
Avec des tests antigéniques, aujourd'hui à l'Huisserie et à Villaines-la-Juhelle, demain à Château-Gontier, mercredi à Laval au Palindrome, jeudi à Château-Gontier et Argentrée et vendredi une nouvelle fois à Laval, mais aussi sur rendez-vous au drive de l'hôpital de Laval via doctolib.fr ou au laboratoire Biolaris de Château-Gontier et encore une fois Laval avec la plateforme Covid Express.
Un accident à Louvigné s'est produit en cette fin de matinée.
Et oui, deux véhicules sont entrés en collision. Une fillette de 4 ans et une femme de 34 ans ont été prises en charge en urgence relative vers le centre hospitalier de Laval. Il a impliqué la fermeture de la route départementale 57 dans les deux sens pour permettre aux pompiers d'évacuer les deux véhicules. La circulation a été rouverte sur une des deux voies.
À Louvigné, toujours un permis de conduire retiré ce week-end.
Un automobiliste qui roulait à 148 km/h au lieu des 90 autorisés sur la route départementale 57 samedi matin. Les gendarmes d'Argentrée lui ont retiré immédiatement son permis de conduire et son véhicule a été immobilisé.
Demain, à Goron, une soirée bilan plan alimentaire.
À la salle Jeanne d'Arc, à partir de 20h, cette soirée l'occasion de faire donc le bilan du projet alimentaire Bien Manger à Goron qui a été lancé en 2019. Cette soirée est ouverte au public.
Et puis côté sport en futsal, Laval n'a pas réussi à faire la différence face au leader Lille Mouveau.
Et s'est incliné 2-0 devant un supporter de marque. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang, la star du FC Barcelone et parrain du club, est venu en surprise donner le coup d'envoi fictif de la rencontre. En foot sur herbe, cette fois-ci, les Tangos se déplacent ce soir à Bourg-en-Bresse, le quatrième de National. C'est l'occasion pour le Stade Lavallois de reprendre 5 points d'avance sur son dauphin Concarneau.
Et puis toujours en sport, un Mayennais sacré champion du monde ce week-end.
Et oui, à Miramas, le Berthevinois Hugo Cisterne remporte le championnat du monde espoir du Tétra Décathlon, qui correspond à 14 épreuves. Le jeune Mayennais remporte son deuxième titre mondial après celui d'Icosathlon l'été dernier, qui combine, elle, 20 disciplines.
Et puis je vous en parlais en tout début de cette émission, ils étaient une centaine de jeunes à marcher pour le climat sous le soleil vendredi après-midi. Des lycéens, des étudiants et des personnes sensibilisées à l'écologie ont participé à une marche dans le centre-ville lavallois, munie de pancartes et de slogans. La manifestation était organisée par Youth for Climate, un collectif dont fait partie Samuel, étudiant en histoire. Il était déjà engagé il y a 4 ans lors d'une grande marche pour le climat à Laval qui avait réuni près de 2000 participants.
Je compte être professeur et donc du coup moi personnellement je me vois pas enseigner devant des élèves en n'ayant rien fait pour le climat finalement. Parce que franchement leur dire qu'ils ont pas de futur en me disant que je fais partie de la génération où on a essayé de faire du mouvement etc. Je me vois pas, j'aurais trop honte en fait. Et donc c'est peut-être ce qui me motive le plus en fait au final. Sinon ce qui m'a investi c'était par exemple aller voir des conférences ou des groupes à Youth for Climate, c'était à Rennes quand j'étais il y a 4 ans. Il y a beaucoup d'élèves en fait, c'est les cours justement qui les sensibilisent et c'est peut-être aussi pour ça ce que je veux fait en tant que prof, bah, à l'occasion d'un stage, j'ai pu justement enseigner en fait un chapitre sur l'environnement et ça me passionne. Je sais qu'il faut sensibiliser sur ça. Et franchement, je sais que c'est ça que je veux personnellement. Youth for Climate, ce que ça représente à Laval tout récemment. Donc du coup, on a pu voir qu'il y avait des motivés qui ont répondu à la story, etc. pour organiser la manifestation. Alors cette banderole date d'il y a 4 ans. Justement, on l'a repris, puis on l'a repeinte parce que nous sommes la nature qui se défend. C'est l'idée qu'en fait, on défend en fait tout le vivant et qu'on s'inscrit, nous humains, en fait, dans ce vivant. C'est un peu ça, concrètement. C'est pas pour rien qu'on a ciblé surtout les lycéens, les étudiants aussi. Sinon, tout le monde est invité à venir. Ce qu'il y a, c'est que c'est mieux pour la symbolique, si je peux dire, que ce soit la jeunesse qui soit représentée, donc qui organise la manifestation, qui fasse ses prises de parole, un collectif, si je peux dire, un peu général pour le futur, quoi. À Laval aussi, on est motivé pour le climat.
Et cette manifestation lavalloise était organisée en même temps que de nombreuses marches de la jeunesse pour le climat, un peu partout dans le monde.
Et tout de suite, on passe à l'interview, mais avant, on écoute All or Nothing de Gutt. Wanna give you anything you can ask for, yeah. See you and I still feel bashful, yeah. Just remind me of that old Q-tip, yeah.
Boy, your music sound like some old Q-tip.
Yeah,
haha.
Taught a New Yorker how to drive, and yeah. Taught a self-doubter how to thrive, and yeah. Only woman that can get me on them rides, and yeah. P, when you making her a bride, oh yeah. Inspired by you back in school, and yeah. They could never play you for the fool, and yeah. I'll be on the road playing cool, but yeah. I need you right here.
This ain't a game we're playing, but I wanna win it. It's all or nothing, but that's just called living. This ain't a game we're playing, but I wanna win it. It's all or nothing, but that's just called living.
All for you, all or nothing is all.
All for you,
all or nothing is all.
All for you,
all or nothing is all.
All for you,
all or nothing is all.
All
got a blessed life, charmed at best. Up late nights working, not much rest. Months go slow, hours fly past. Whole world crazy, it's all out of whack. Doing what I love, keeps me from the one I love. Crazy paradox, I never dreamed of. Just wanna hug my daughter, give my girl a kiss. It makes all relationships long distance. Home is where the heart is, road is where the art is. Trying to balance both, man, now that's some hard shit. But you make sense, and it's appreciated. It can't be overstated, you're
this
the one
I
wanna stay
with. But I wanna win it. It's all or nothing, but that's just called living. This ain't a game we're playing, but I wanna win it. It's all or nothing, but that's just called living.
Check this out, y'all. Check it out. What a dump, bump, 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 bump. Bump, 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 bump. What you got, Don Will? Bump, 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 bump. Bump, 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 bump.
All or nothing, it's all. All or nothing, it's all. All or nothing, it's all.
C'était Guts, All or Nothing dans la JT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on va maintenant donner la parole à notre invité qui est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour Martine Michel.
Bonjour.
Et donc Martine Michel, vous avez été victime de violences sexuelles quand vous étiez enfant et vous avez écrit un ouvrage pour en parler. Alors, pour parler de votre expérience, mais aussi et surtout pour parler plus globalement de ce tabou autour des violences sexuelles sur les enfants, et puis de ce qu'il faut faire aussi pour s'en sortir en tout cas. Et c'est ce livre aussi qui vous a amené à parler devant le conseil départemental le 15 mars dernier. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, le 15 mars, c'était la sortie officielle de mon livre. Et en septembre 2020, Géraldine Bannier, députée du Sud-Mayenne, m'avait dit que lorsque mon livre sortira, il faut que la Mayenne se mobilise derrière moi et que tous les élus parlementaires, ainsi que le président du département, M. Richefou, soient présents, enfin, du moins se mobilisent. Alors, quand elle m'avait dit ça, j'avais eu du mal à y croire. Et puis, de fait, j'ai rencontré tous les élus parlementaires de la Mayenne et M. Richoux, et qui ont tous dit « oui, on sera là le 15 mars ». Donc, c'était une très belle soirée, puisque presque 200 personnes étaient présentes, avec, entre autres, des professionnels qui m'ont aidée à écrire ce livre. Je pense notamment aux responsables de la protection de l'enfance en Mayenne, hein, puisque pas mal de personnes de l'aide sociale à l'enfance m'ont accompagnée dans cette écriture. Je pense également à la responsable de la CRIP. Alors la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. C'est un organisme qui est dans tous les départements depuis 2008, qui n'est pas connu du grand public et qui plus est, pas par les professionnels, notamment de l'éducation comme moi. Donc quand on a des suspicions ou même des révélations de violences sexuelles sur des mineurs, il faut qu'on contacte la CRIP pour remplir ce qu'on appelle une information préoccupante ou dans le jargon professionnel, on parle de FRIP. Donc, tout citoyen devrait ou doit
connaître. C'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose qui est connu, en tout cas du grand public.
Pas du tout.
Et pourtant, c'est le premier réflexe finalement à avoir quand on a des doutes sur une situation.
Tout à fait. Ouais, de maltraitance infantile, violence sexuelle ou autre violence. Et c'est pour tous les citoyens et tous les professionnels qui ont des suspicions. Alors par contre, quand il y a des révélations en tant que professionnel, là, la loi nous dit d'informer directement le procureur de la République.
Oui, puisque ça tombe sous le coup de la loi, donc là c'est encore autre chose. Mais quand il y a des suspicions, en tout cas, c'est l'organisme qu'il faut contacter. Puisque justement, je ne l'ai pas dit, mais pour ce livre donc, qui s'intitule « Violences sexuelles sur les enfants et les adolescents, détectées, alertées, soignées », vous avez rencontré plusieurs professionnels justement, et même de nombreux, et des victimes aussi. Ça a été un gros travail. À quel moment vous vous êtes dit « il faut que je me lance là-dedans » ?
C'est toute une histoire. Alors, ce sont les hasards de la vie. En avril 2019, j'ai subi une lourde intervention chirurgicale à Paris. Et cette intervention chirurgicale m'a fait sortir définitivement d'une amnésie traumatique totale. À savoir dès l'âge de 6 ans, j'ai été victime de violences sexuelles. Précisément, la première fois, c'était viol avec doigts. Et mon cerveau avait tout enfoui. J'ai mené une vie, je dirais, normale, jusqu'en 2013, puisque la première scène est sortie en 2013. À partir de 2013, je me suis fait aider en thérapie. 2014 jusqu'à 2019, j'ai remené une vie à peu près normale, parce qu'il y a quand même des choses qui n'étaient pas très évidente au niveau de ma santé.
Vous arriviez à expliquer ou pas du tout ?
Alors, quand ça m'est sorti du cerveau pour la première scène en 2013, ce fut très difficile parce que je me suis réveillée un matin avec l'image de mon agresseur, et j'étais sur ses genoux et que il me faisait des actes odieux. Sur le moment, je me suis dit, mais je suis folle ou pas ? Et si bien que je suis allée voir mon médecin traitant le soir même, parce que ça m'obsédait toute la journée. Et moi, je suis d'un tempérament à ne pas rester avec mes problèmes. Hein, je m'accompagne toujours de professionnels où je parle autour de moi. Mais en tout cas, je ne reste pas à ruminer. Ce n'est pas du tout mon style. Et mon médecin m'a posé des questions et il m'a dit non. Pour moi, vous avez été victime de viol. Et voilà.
C'est là la première fois où vous avez vraiment entendu le mot.
Alors, vous déjà, êtes... Alors, c'est même pas ça tout à fait. Maintenant que vous me précisez les choses. Mon médecin, il m'a dit, oui, vous avez été victime de violences sexuelles, mais il m'a pas parlé du mot viol. Et j'ai cru, oui et non. Mais en tout cas, il m'a dit, j'ai besoin de vous voir tous les jours. Ah, d'accord. Sachant que, voilà, j'avais déjà traversé des gros traumatismes. Et voilà. Et moi, j'ai pris rendez-vous avec une psychologue que je connaissais dès le soir même. Et elle m'a dit, je veux vous voir dès le lendemain. Je suis allée voir cette psychologue le lendemain. Et c'est elle qui a employé le mot viol. Et finalement, sur le moment, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'avec les doigts, c'était un viol. Mais oui, la loi dit bien que sur la pénétration avec un objet, un doigt, ou évidemment le sexe, c'est un viol. Je fus sidérée quelques secondes, mais ça m'a fait du bien. Donc ça, c'était en 2013. Et puis, bon, j'ai fait un soin thérapeutique, un soin avec un thérapeute énergéticien, parce que les médicaments ne faisaient rien, puisque ben, après que les images soient revenues, les douleurs sont revues. Des douleurs pelviennes, 9 sur 10, oui, sans problème, sur l'échelle de douleur. Et je ne savais pas comment me soigner, puisque les médicaments ne me faisaient rien. Je suis allée voir un thérapeute énergéticien. On va voir qui on peut, hein, quand c'est comme ça. Le but, c'est quand même de se soigner. Et finalement, ben, il m'a enlevé toutes ces douleurs physiques après le premier soin. Voilà. Et entre 2013 et 2019, j'avais repris une vie plus ou moins normale. J'étais même très dynamique, avec des responsabilités associatives, enseignante en BTS.
Ça vous disait dans l'éducation, tout à l'heure, vous étiez enseignante, c'est
oui,
ça?
Oui, voilà. Et puis, moi, j'ai une famille avec 3 enfants, enfin bon, plein d'amis. Enfin bon, tout allait plutôt bien, sauf un kyste qui poussait dans le foie et qui devenait très, très problématique. Et là, de fait, en 2019, on me l'a enlevé. Et là, ça fait ressortir après des douleurs. Et pour répondre à votre question initiale, c'est peut-être 15 jours, 3 semaines après cette opération qui a été... Alors, opération en elle-même, très bien, mais beaucoup, beaucoup de souvenirs me sont revenus. C'était insupportable, tant psychiquement que physiquement, puisque là, les sensations physiques sont revenues, que dans une méditation, parce que je médite beaucoup, un plan de livre m'est arrivé.
Un plan de livre, carrément.
Oh oui, carrément, ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. J'ai vu un plan de livre, et comme je suis très intuitive, je me suis dit, bon, bah, écoute, Martine, tu y vas, tu te mets à écrire. Et c'est ça qui m'a motivée à me lever le matin. Ce n'est même pas ma famille ni mes amis, hein, parce que la douleur physique était intense.
Très, très forte, oui.
Ça a été pendant des mois comme ça. Plus toutes les images qui m'obsédaient, mais tout n'est pas sorti en même temps. Hein. Ça a mis jusqu'en novembre 2020, hein, des images sont revenues. C'est fou, hein, le cerveau va à son rythme. Et donc voilà, je me suis mise à écrire ce livre, et puis la vie, bah, là, a bien fait les choses. La première personne que j'ai rencontrée, c'est un brigadier de gendarmerie qui m'a dit, bah, c'est très fréquent, d'accord.
Ce qui n'est pas très rassurant en même temps.
Non, ensuite je suis allée à l'aide sociale à l'enfance, où là j'ai eu un merveilleux accueil, tout comme le brigadier d'ailleurs. Et là, j'ai découvert l'ampleur du problème. Et ben, l'ampleur du problème, c'est que selon le Conseil de l'Europe, l'OMS, presque un enfant sur 5 a été victime de violences sexuelles dans l'enfance. Viol ou agression sexuelle, c'est-à-dire attouchement. Toujours pareil, selon le Conseil de l'Europe, dans une classe de 30 élèves, en moyenne, 4 élèves ont été victimes de violences sexuelles, donc 2 par inceste. Inceste, ça veut dire que c'est un membre de la famille, ou un beau-père, un beau-frère, enfin bon, ou un enfant de la famille, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans la famille ou autour de la famille, mais avec un lien
avec
quand même.
Avec un lien familial.
Voilà, c'est ça. Et puis, bah, la dernière enquête criante, c'est en 2020, novembre 2020, l'Ipsos a fait une enquête pour l'association Face à l'inceste, qui est une grosse association nationale. Et là, 10% des Français disent avoir été victimes d'inceste dans leur enfance, et 36% des Français disent connaître au moins une victime d'inceste dans l'enfance. Et personnellement, je ne suis pas du tout étonnée parce que...
Pourtant, c'est énorme comme chiffre.
Ouais. Bah oui, mais c'était tellement tabou. Et moi, déjà, depuis 2013, je n'ai jamais eu honte de parler de ce que j'ai vécu. Vraiment, contrairement à beaucoup de victimes qui sont dans la honte, la culpabilité. Mais bon, voilà, j'avais tellement fait un travail psychologique sur moi que j'étais forte, avec toutes mes difficultés, attention. Mais voilà, donc je n'ai pas eu honte. Et dès 2013, j'ai eu plein de témoignages, mais plein de témoignages. Même dans ma commune, certaines semaines, j'avais un témoignage par semaine et je n'exagère pas.
Est-ce que c'est les gens qui venaient vous voir en sachant que vous faisiez justement ce travail-là ou parce qu'on parlait du tabou justement qui existe ?
Alors, pas du tout. En 2013, c'est moi qui en ai parlé. J'avais des responsabilités associatives importantes dans ma commune. Et comme j'étais quand même un peu défigurée, fatiguée quand même par tout ça, et j'avais dit à quelques personnes qui m'avaient dit « Ah bah tiens, moi je connais un tel, il y a moi, il y a un tel, il y a un tel. » Bon voilà, donc là j'avais des noms. Mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et en 2019, là j'étais tellement fatiguée et défigurée par cette opération parisienne, puisque tout ce que ça sortait. Donc les gens ils me disaient « Mais on t'a vu la tête que tu as ?» Et là je parlais ouvertement. Et puis j'avais besoin, parce que moi c'est comme ça que j'ai libéré la parole. C'est en parlant. Je suis quelqu'un qui est très à l'aise en communication orale, contrairement à beaucoup de victimes.
C'est ça qui vous a aidé, vous, en tout cas, aussi, à
complètement.
Surmonter.
Mmh. Et toutes les personnes qui venaient. Moi aussi. Et puis, ce qui m'a encouragée à persévérer dans l'écriture de ce livre, qui a été réellement difficile à écrire, très, très difficile, puisque c'est un livre-outil. Ce n'est pas un livre que de témoignages. Moi, je témoigne sur 4-5 pages, je crois, pas plus. C'est tous les professionnels... connaissant cette problématique, m'ont dit « Allez-y, enfin on aura un livre-outil. » Notamment des psychiatres.
Comme s'ils attendaient ça depuis très longtemps.
Carrément. Et j'ai rencontré en Mayenne et ailleurs, puisque j'ai eu la chance de faire un diplôme universitaire de victimologie avec l'Université Descartes à Paris. Donc c'est un diplôme où on parle des conséquences sur la santé des traumatismes, on voit tout l'aspect judiciaire, l'aspect accompagnement des victimes aussi au niveau associatif. Bon, c'était une formation très, très, très sérieuse. C'est dans cette formation d'ailleurs que j'ai fait un mémoire, les obligations d'alerter des enseignants en cas de maltraitance infantile. Donc j'ai rencontré plein de professionnels dans ce DU, notamment des procureurs de la République. Ce n'est pas le genre de personnes qu'on rencontre tous les jours, des juges pour enfants, des majors de gendarmerie, etc., qui ont témoigné dans mon livre. Et puis au niveau local, j'ai rencontré plein de professionnels de santé, pédopsychiatres, pédiatres, psychiatres, professionnels de la protection de l'enfance. J'ai rencontré également au niveau national et au niveau local des avocats, etc.
Et qu'est-ce que vous en avez tiré justement de tout ? Parce que j'imagine que c'est vraiment un très gros travail. Toutes les personnes que vous dites avoir rencontrées, il a fallu quand même faire ce livre-outil qui se veut justement très pédagogique aussi.
Complètement.
Alors, qu'est-ce que vous en avez retiré ? Quelle est l'essence même ?
Alors, l'essence même de ce livre, c'est un livre qui est facile à lire pour tout le monde, pour tous les citoyens, les professionnels. Il est sorti depuis bientôt 15 jours et les retours sont très bons par rapport à la lecture. Et ça, vraiment, ça c'est mon métier de prof quelque part. Je voulais faire quelque chose de très simple avec un sujet très difficile à cerner. Donc, j'ai énormément travaillé, mais ça a été ma thérapie parce que j'ai beaucoup souffert depuis 3 ans et je suis encore en arrêt maladie parce que j'ai encore pas mal d'émotions à sortir, encore des problèmes cognitifs quand je suis fatiguée. Alors c'est beaucoup mieux, mais ça a été ma thérapie. Ça m'a mis... Alors qu'est-ce que j'en ai retiré ? Ça m'a mis dans beaucoup de joie, malgré cette grosse souffrance physique, puisque comme je vous dis, j'ai tout revécu, les sensations, les émotions et les images. Parce que j'ai rencontré des personnes merveilleuses. J'ai rencontré tous les élus politiques qui m'ont soutenue, ça je ne m'y attendais pas du tout, ça m'a mis également dans beaucoup de joie. Et qu'est-ce que j'en ai retiré ? Alors je me suis dit déjà, Martine, tu vas faire un livre-outil facile d'accès pour tout le monde, avec une partie pour mieux comprendre les mécanismes du cerveau. Donc c'est la première partie, elle n'est pas dans le titre, parce que dans un titre on ne peut pas tout mettre. En tout cas, cette partie, elle est peut-être la plus importante de mon livre, parce qu'elle explique les mécanismes du cerveau lorsqu'il y a une sidération.
Donc plutôt scientifique, cette partie-là.
Elle est complètement scientifique. Là, je me suis appuyée sur plein de recherches scientifiques, par les rencontres avec les professionnels de santé, et puis également avec mon expérience. et les témoignages de victimes. Oui, alors ça, j'ai oublié de vous le dire. J'ai, pour mon livre, j'ai une trentaine de témoignages de professionnels, peut-être plus. Bon, je crois qu'il y en a plus. Oh oui, parce que je n'ai pas répertorié forcément ceux qu'on fait que j'ai eu dans mon diplôme universitaire. J'ai dans mon livre les 62 témoignages de victimes, mais j'en ai eu beaucoup plus que ça.
62 qui ont accepté en tout cas d'apparaître dans le livre, c'est
ben
ça?
Non, c'est tout simplement c'est que j'ai fait un tri. Alors, votre question, elle est très pertinente. Toutes les victimes là, étaient prêtes à témoigner dans mon livre, mais presque aucune n'a voulu témoigner avec leur prénom réel.
Preuve du tabou qui existe encore et de la culpabilité aussi, dont vous parliez tout à l'heure.
Mais complètement, en disant, tu dis surtout pas que c'est moi. Et là encore maintenant, en 2022, j'ai recontacté toutes les victimes. Non, faut surtout pas dire. Donc il y a un travail énorme à faire.
Et vous disiez, ça marche déjà bien, puisque là, ce livre, il est sorti il y a peu de temps, et pourtant les professionnels le mettent déjà en libre accès. On pourrait dire, il y a déjà des retours et il y a déjà eu quelques déclics.
Ah oui, alors ça c'est une démarche que je ne savais pas. Les professionnels qui m'ont aidé évidemment m'ont acheté le livre. Et puis également, on commence à le donner. Alors c'est parce que j'ai créé une association qui s'appelle Alisson, violence sexuelle sur mineurs. Je l'ai créé avec deux autres personnes pour l'instant. Et l'objectif c'est de mettre mon livre gratuitement au service des professionnels de l'éducation, de la santé, etc. Parce que vu encore le tabou, je me suis dit, il faut aller vers eux. Donc, alors, il y a un certain nombre de professionnels qui l'ont acheté, de victimes évidemment, ou de proches, et des professionnels, et puis d'autres qui l'ont eu gratuitement. Et je ne m'y attendais pas. Je connais au moins 6 professionnels de santé qui l'ont mis en valeur dans leur cabinet. Et là, c'est merveilleux. Vraiment, je dis merveilleux, parce que des adultes qui ont été victimes dans l'enfance, voient ce livre avec une très belle couverture. La couverture qui a été faite par ma maison d'édition, elle est magnifique. Et ils commencent à parler, ou elles commencent à parler de leurs symptômes, alors qu'elles n'en avaient jamais parlé. Et elles disent aux professionnels de santé, on va acheter le livre. Et les autres retours que j'ai, mais ça je savais, parce que j'avais évidemment fait lire mon livre avant qu'il sorte, à des victimes collatérales ou directes, et il leur fait beaucoup de bien. Des victimes adultes. Pourquoi ? Parce qu'elles se retrouvent bien dans les symptômes et elles se disent « Ah oui, eh ben moi aussi ». Et puis, il y a toute cette partie soignée dans ce livre. Je donne plein d'outils.
Parce que mon livre peut les aider aussi, elles.
Complètement. Et donc ça, je ne m'y attendais pas. Parce que moi, l'objectif du livre au début, c'était parler des mécanismes du cerveau, détecter. Donc, donner tous les symptômes qu'on peut retrouver chez des enfants et adolescents.
À quoi, justement, on peut faire attention si on hésite ? Est-ce qu'il y a des signes qui, quand même, peuvent alerter ?
Voilà. Alors, je ne vais pas les détailler ici. Vous irez voir mon livre où ils sont également... Je n'ai rien inventé. Je les ai pris sur le site de la Haute Autorité de la Santé et sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Et j'ai agrémenté par des témoignages de victimes et de professionnels. Pour synthétiser, on peut être alerté quand il y a un changement radical de comportement. Par exemple, un enfant qui était très calme, il devient hyperactif. Ou à l'inverse, un enfant qui était hyperactif devient très calme. Mais ce n'est pas dû forcément à des violences sexuelles. Ça peut être dû à un deuil, etc.
Oui, bien sûr.
En tout cas, les symptômes sont bien décrits en détail dans mon livre. Donc, symptômes physiques, symptômes psychologiques, symptômes sexuels. Et c'est la combinaison d'un certain nombre de symptômes qui peut laisser supposer que... Mais par contre, un enfant qui a été victime ne va pas forcément parler, puisque ça, c'est prouvé scientifiquement. Au minimum, 40% des enfants qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles font une amnésie traumatique totale, comme moi, au moment des faits.
Et ça ressort plus tard ensuite quand ils sont adultes.
Voilà, et ça ressort plus tard quand ils sont adultes. Alors, les recherches scientifiques, qui à mon avis ne sont pas justes, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Ça ressort en moyenne 16 ans après. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus parce que j'ai eu plein de témoignages de victimes où c'est ressorti à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et j'ai même deux psychiatres qui m'ont dit qu'elles voient des patientes ou des patients. Ça sort à 60, 80, quand le cerveau est prêt.
C'est ça. Donc là, j'imagine aussi l'objectif de ce livre-là, c'est de limiter aussi ce délai et pour éviter d'en souffrir pendant... le plus longtemps possible.
Ah ben, de toute façon, c'est l'objectif premier de mon livre. Enfin, le deuxième. Le premier, c'est comprendre les mécanismes de sidération du cerveau. Le deuxième, justement, c'est détecter au plus tôt, alerter au plus tôt. Alors, alerter, C'est une démarche de santé publique hein, dans mon livre. Hein. C'est alerter, justement, comme Moulet bien dit, pour repérer le plus tôt possible des enfants qui ont été victimes pour qu'ils soient soignés. Puisque ce traumatisme se soigne très bien quand il est détecté. Et alerter, ben, c'est également de ne plus mettre l'enfant en danger s'il est en danger. Mais moi, je ne suis pas allée sur le côté de la justice. Ce n'est pas mon rôle. J'ai bien parlé de la procédure judiciaire parce que pour certaines victimes, c'est fondamental. Pour d'autres, non. Mais moi, je suis allée sur le côté santé. Détecter rapidement, alerter rapidement parce qu'un enfant qui va être détecté va être soigné plus tôt et à moins de risque de reproduire. Puisque ça, c'est pareil, hein, c'est prouvé scientifiquement. 80% des agresseurs ou agresseuses, puisqu'il y a...
Aussi des femmes.
Oui. Mmh. Peut-être 10-15%, ce sont des femmes, mais ça reste encore un sujet très tabou, notamment des mères. Et j'ai lu des livres là-dessus, hein, scientifiques. Et en tous les cas, 80% des agresseurs qui sont condamnés hein, avec une peine sont d'anciens ou anciennes victimes dans l'enfance. Donc, ils ont, comme je l'ai bien dit dans la première partie sur les mécanismes du cerveau, ils ont ce qu'on appelle la mémoire traumatique. C'est ce que moi, j'ai eu et qui s'est enfoui dans mon cerveau pendant 40 ans, voire 44 ans pour certains viols.
Donc effectivement, on pourra retrouver tout ça. On n'a pas le temps de parler de tout ce qu'il y a dans ce livre. Merci beaucoup en tout cas, Martine Michel, d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Un dernier mot rapidement ?
Oui, alors ce livre est dans toutes les librairies, sur place ou sur commande.
Très bien. Donc à retrouver, je rappelle son titre, « Violence sexuelle sur les enfants et les adolescents, détecter, alerter, soigner ».
Et prévenir.
Et prévenir.
Qui n'a pas été mis. Mais...
Et on va passer à la chronique du jour, aujourd'hui avec la Ligue des droits de l'homme. Mais avant, on écoute Che Gué de Che Gué.
Hey, Che Gué. Hey, Che Gué. Mama na yo aza wapi. Papa na yo aza wapi. Hey, Che Gué. Mwasi na yo waza wapi Kombo na yo weza nini Hey, Chege Hey, Chege Papa na yo wakufi Mama na yo waza wapi Hey, Chege
c'était Tchégué avec le titre du même nom. Et on va retrouver notre chronique de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne avec Alain Vigné, aujourd'hui interrogé par Andy.
Alors bonjour Alain Vigné, représentant de la Ligue des droits de l'homme. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui dans cette chronique ?
Eh bien bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Je vais vous parler aujourd'hui d'une table ronde débat que nous organisons avec un collectif d'associations qui s'appelle COLEDIS, collectif d'entraide et initiative sociale en Mayenne, mardi 29 mars, donc mardi prochain, à la salle Athènes, avenue Pierre de Coubertin à Laval. Et le thème de cette soirée, débat, échange de réflexions, dans le contexte électoral actuel, bien évidemment, est France 2022, quelle fraternité ? Point d'interrogation.
Et justement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme et qu'est-ce qu'elle représente en Mayenne rapidement ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme se manifeste sur le terrain dans la plupart des départements français par des sections constituées des adhérents locaux. Chaque section s'organise un petit peu en fonction du contexte local. En ce qui concerne la Mayenne, notre section est relativement récente. Et un des aspects de notre action est lié au fait que la Ligue des droits de l'homme est une organisation extrêmement généraliste qui touche un petit peu à tous les secteurs des droits fondamentaux sur la base de ces deux référentiels essentiels que sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nos préoccupations portent sur des sujets très divers, mais dans la plupart des cas, ces préoccupations sont partagées par d'autres organisations locales. Ce qui nous amène, je dirais, à contribuer à l'animation ou à la constitution d'un certain nombre de collectifs qui réunissent des associations selon des périmètres qui dépendent bien évidemment de la nature des sujets qui les ont amenés à se constituer. Et parmi ces collectifs, il y en a donc un qui s'appelle le COLEDIS, collectif d'entraide et d'initiative sociale en Mayenne.
Et justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce collectif d'associations ?
Alors, le collectif COLEDIS rassemble des associations aux sensibilités les plus diverses, vous le remarquerez lorsque je vous en citerai un certain nombre. Leur point commun est d'être engagés dans l'accompagnement et la défense des droits des personnes les plus démunies. Ça va du réseau Éducation sans frontières au Secours catholique, en passant par l'Association mayonnaise d'action auprès des gens du voyage, ATD Carmon, d'Emmaüs, l'Association citoyenne du Craonnais, la Diaconie du diocèse de Laval, et de nombreux acteurs de l'hébergement d'urgence et de l'accueil de jour, des maraudes pour les personnes à la rue, de l'éducation populaire, de l'hébergement solidaire des mineurs étrangers isolés, de l'intermédiation locative pour l'accès au logement, etc., etc., etc.
Justement, ce collectif s'appelle COLEDIS, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors COLEDIS, je le rappelle, ça veut dire collectif d'entraide et d'innovation sociale. Il a été créé dans un contexte particulier en 2014. Il s'agissait à l'époque de faire face à l'absence d'une halte de nuit pour les personnes à la rue à Laval. Et donc ce collectif a réuni un certain nombre d'associations qui ont fait cause commune pour revendiquer et obtenir l'ouverture d'une halte de nuit à Laval. Et puis ça a connu bien d'autres développements après, et en particulier avec l'arrivée d'étrangers en situation irrégulière qui avaient besoin d'être accompagnés et soutenus.
Pour cette table ronde qui se déroulera mardi prochain, quelles seront les problématiques abordées par les intervenantes ?
Alors, nous avons voulu en faire une table ronde. Elle sera animée par un journaliste, Anthony Torzek, qui viendra de Nantes pour ça. Et nous avons trois intervenantes. Une que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Soizic Manac-Chauvel, qui est chroniqueuse à l'autre radio. Ensuite, c'est Claire Sabat, qui est chargée de mission au Secours catholique sur les questions d'accueil et de droits des migrants. Et enfin, Marie-Alette Grard, présidente nationale d'ATD Carmon, qui connaît bien Laval, en effet. Elle est venue tout récemment à plusieurs reprises pour soutenir l'expérimentation zéro chômeur de longue durée engagée par Laval Aglo dans le quartier Saint-Nicolas. Vous aurez remarqué au passage que notre table ronde est constituée de trois intervenantes.
Merci beaucoup Alain Vigné et je le rappelle, vous êtes représentant de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne.
Je vous remercie.
Et la prochaine chronique sera à retrouver lundi dans 2 semaines. On passe donc à ce programme des semaines d'éducation contre les discriminations qui se termine, et puisque ça y est, c'est l'heure de la rétrospective de tous les événements qui ont été faits avec des photos, des échantillons d'exposition et quelques bouts de films aussi, à retrouver toute cette semaine dans le hall de l'hôtel de ville de Laval pour justement voir cette exposition rétrospective et peut-être aussi voir des choses que vous n'avez pas pu faire tout ce mois de mars. Ce sera visible jusqu'à vendredi à l'hôtel de ville de Laval. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce lundi. Salut Andy, on se retrouve demain.
Salut Marie, oui, à demain.
On se retrouve demain effectivement à 12h15, mais avant, à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h par la discothèque de Simon. Nous, on se retrouve demain. Je vous souhaite une très belle journée.